Mon vrai, le micro, là, j'étais tout mêlé dans mes boutons. On reprend. L'émission dans Jazz, l'émission du mercredi 12 août, là, je me disais, voyons, ça sort pas, cette affaire-là, là. Et voilà.
Parce que vous, vous l'entendiez pas, mais Jeff, ça faisait un bon 10 secondes qu'il parlait dans le vide.
Ouais, puis là, j'étais là, comment ça, ça sonne sourd de même dans mes écouteurs. Ben voilà. Que veux-tu là? Je peux plus mettre ça sur le retour de vacances parce que je suis revenu depuis déjà 8 jours ouvrables. Bah, c'est une erreur de manipulation.
Mais tu peux-tu le mettre sur le dos des vacances pendant 2 semaines?
Je pense que
ça,
oui.
Ça marche-tu, ça? Que...
Ah, j'ai trop décoqué tard hier soir.
Ah bon, ben, on a trouvé ton excuse.
C'est une bonne excuse, ça. Hein? Ah, je suis content. On tire beaucoup de similitudes du côté de la politique, puis c'est pas juste moi qui le fais, c'est plusieurs analystes politiques entre ce que la CAQ est en train d'essayer de construire avec Christine Fréchette et ce que le PLC, c'est-à-dire le Parti libéral du Canada, a construit avec Mark Carney. C'est-à-dire un parti usé par le pouvoir avec un chef extrêmement contesté et j'irais même jusqu'à dire détesté dans la population. Ce dit chef là part, que ce soit Justin Trudeau ou François Legault, et là, le sauveur ou la sauveur arrive. Du côté du PLC, ça a fonctionné à plein régime. Mark Carney a réussi à se faire élire de façon minoritaire. Là, après ça, il entourloupa un peu la démocratie pour devenir majoritaire. Et là, bien sûr, on regarde les sondages au Québec. Mark Carney marche sur les eaux. Et là, hier, Mathias, tu vas nous résumer la nouvelle. Quand j'ai vu cette nouvelle-là, j'ai dit « Quand la CAQ vient de sortir le... comment je dirais bien? L'action numéro 2 du Parti libéral du Canada dans le livre « Comment réussir à faire croire à la population que nous avons changé ». Le... La première action, c'était de l'appeler équipe Christine Fréchette. Donc, de faire oublier complètement la CAQ. Et François Legault, le Parti libéral du Canada, a fait la même chose. C'était Mark Carney, Mark Carney, Mark Carney. Et là, la deuxième action clé, c'est la suivante, Mathias.
C'est partir en crise contre Donald Trump, c'est ça que je comprends.
L'ennemi juré.
La première ministre du Québec, Christine Fréchette, qui a annoncé hier mettre en place 2 cellules de crise en raison des tarifs douaniers de 50% du président Donald Trump qui pourraient rentrer en vigueur dès le 19 août. L'objectif de ces dernières sera d'évaluer les répercussions que pourrait avoir cette nouvelle mesure américaine. Une première cellule se déroulera jeudi avec 12 organisations du milieu, entre autres de l'aluminium, de la foresterie et du secteur minier. La deuxième se déroulera celle-ci vendredi avec le milieu agricole. Les nouveaux tarifs qui pourraient toucher environ 7,7 milliards en exportations québécoises vers les États-Unis, soit environ 9 % de l'ensemble des exportations du Québec vers nos voisins du Sud.
Gabriel Giguère est avec nous, analyste politique senior pour l'Institut économique de Montréal. Gabriel, quand ça fait 8 ans que tu es au pouvoir, que la crise des tarifs, on s'entend, elle a commencé au mois de janvier 2025, on est rendu un an et demi plus tard. Me semble que tu n'as plus besoin de créer une cellule de crise pour gérer la crise tarifaire.
Ben, on comprend, là, puis tu l'as bien dit, Jeff, là, on essaie vraiment de pousser le personnage de l'avant pour être attractif sur le plan politique, là, vraiment reprendre le playbook qu'on a vu avec le PLC. Donc, il va falloir quand même, en tant que citoyen, juste analyser ça froidement puis comprendre que, certes, il y a une réelle menace avec les tarifs de Donald Trump, mais faire la part des choses quant au discours politique, à tout ce qui est politique, qui a l'impact réel sur le plan économique. Parce que la réalité aujourd'hui, moins sur Christine Fréchette que sur les tarifs ici, c'est quand même que dans quelques jours, à peu près une semaine pour être précis, on pourrait voir une augmentation des tarifs douaniers au Québec, au Canada plus largement. Puis ça, bien évidemment, ça pourrait faire mal à l'économie.
Exactement. Cependant, moi, je pense qu'on avait quand même commencé un travail ou amorcé un travail qui nous amena pas nécessairement faire le gros show de boucan de Donald Trump, le méchant, puis là, regardez, Christine Fréchette va venir nous sauver parce que, oui, les tarifs vont augmenter, mais c'est déjà envers des entreprises ou des secteurs qui sont touchés. Puis là, ici au Québec, on pense à l'acier, l'aluminium, le bois d'œuvre.
Oui, effectivement. Donc là, il faut toujours faire la part des choses. Il y a un réel impact économique. Il y a des entreprises qui sont déjà touchées. Il y a aussi une réalité où ces nouveaux tarifs-là, c'est quand même sur environ 9% des exportations. Puis c'est malgré le fait que ce soit couvert par l'accord libre-échange Canada-États-Unis-Mexique, ça vient réellement faire mal. Après ça, il faut aussi être lucide dans le spectacle politique. Hein, on essaie quand même de créer un peu de peur pour dire, ben, regardez comment je deviens incontournable. Bon, quand on lit entre les lignes, on comprend que c'est entre le fédéral puis entre les États-Unis que ça va se régler, là. Donc, il faut aussi faire la part des choses. En même temps, c'est dommage, par contre, de voir que nos entrepreneurs, puis ça a été notamment mentionné par la FCEI, donc la Fédération des entreprises indépendantes du Canada, les entrepreneurs ici risquent de prendre un coup, malheureusement, encore une fois. Donc, on comprend aussi qu'on est dans un bras de fer, là, du côté de l'administration américaine pour aller chercher un accord commercial avec le Canada.
Non, c'est clair que ça va faire mal dans plusieurs secteurs, notamment le bois d'œuvre, là, à l'heure actuelle, qui est un secteur très amoché par cette guerre tarifaire-là. Ceci dit, Gabriel, puis là, je suis certain que je te vole les mots de la bouche parce que tu collabores avec nous à chaque semaine. Une des mesures que Christine Fréchette devrait annoncer, c'est réduire le fardeau fiscal puis la réglementation de nos entreprises, ce qui est jamais envisagé pour le moment.
Ben, le problème aujourd'hui, puis on l'a vu là, c'est que le Québec est le champion de la réglementation, des obligations réglementaires pour la population et pour les entrepreneurs. Donc, si on voulait être plus sérieux du côté du gouvernement, c'est vraiment d'attaquer ce point-là. On a vu dans les dernières années que l'ancien gouvernement, hein, le coalition de la coalition Avenir Québec,
oui.
Non pas celui de l'équipe Fréchette, vous voyez la petite blague évidemment. On a déposé plusieurs projets de loi à cet égard pour réduire la réglementation, mais les obligations réglementaires augmentent quand même. Donc concrètement, faut être beaucoup plus ciblé dans la réduction. Puis il faut également mettre un nouveau mécanisme, Jeff, qui je pense est incontournable aujourd'hui, c'est les clauses crépusculaires. C'est quand tu arrives de l'avant puis tu dis on va mettre une réglementation, mais elle a une durée de vie. Comme ça, on va être obligé d'en redébattre dans 5 ans et ça ne va pas simplement s'accumuler parce que l'entrepreneur, lui, peu importe le secteur, qui doit se conformer à ses obligations, ça lui coûte beaucoup d'argent en avocat, en administration et c'est des ressources qui ne peuvent pas être mises pour créer de la richesse, pour développer des partenaires commerciaux pour son entreprise. Donc, collectivement, on a moins de prospérité à cause du fardeau réglementaire actuel.
C'est clair. Moi, Gabriel, par contre, dans la colonne des plus, dans la colonne des positifs, je crois qu'on est vraiment dans un bon momentum pour négocier avec les États-Unis. Il y a une rumeur qui circule que les deux parties travailleraient fort pour présenter un projet d'entente à Donald Trump. Je pense pas que ça va être une entente finale, mais certainement un bon document de travail qui va nous permettre de faire cheminer les choses. Puis pourquoi je pense ça? C'est parce que Donald Trump en a plein les bras avec l'Iran. Puis là, il n'a pas le choix. Faut qu'il y ait un gain en quelque part pour la population américaine. Et je le vois là, le gain stratégique pour Donald Trump.
Jeff, j'aime comment tu le présentes parce que j'ai l'impression que tu es dans un optimisme prudent.
Oui.
C'est-à-dire, oui, on est optimiste, on sent qu'il y a un momentum, on comprend c'est quoi les irritants de l'administration américaine. Il risque d'y avoir des concessions. J'espère, tu me connais, Jeff, j'en parlais souvent, que ce soit sur la gestion de l'offre, pas pour faire plaisir aux Américains, pour réduire la facture des Québécois puis des Canadiens. Fait que ça, tout le monde gagnerait. C'est le genre de compromis qu'on n'aura pas le choix. Sinon, on a un secteur du bois d'œuvre qui est étouffé par les tarifs douaniers. Puis même si, à la base, là, puis on le dit souvent, là, mais celui qui va payer les tarifs douaniers, c'est le consommateur américain avec des produits plus chers. Il en reste pas moins que nos entreprises du secteur forestier, entre autres, en arrachent. Fait que ça serait le fun de pouvoir réduire ces tarifs-là. Il va y avoir des compromis. Il y a un momentum. On espère que ça va de l'avant. Mais le côté prudent, de optimiste prudent, c'est quand même de dire que même s'il y a un accord qui est passé, c'est pas le temps de sabrer le champagne, là. Parce que peut-être que dans 2 jours, on va déchirer du côté de l'administration américaine.
Ouais, c'est
faisons
ça,
attention.
Et en attendant là, tout ça du côté du Québec, est-ce que... C'est quoi qu'il faut s'attendre des deux cellules de crise de Mme Fréchette? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que la première ministre sorte de là avec des mesures concrètes pour les entreprises?
Il y a là le problème, Mathias, c'est que cette cellule-là, il y a des éléments intéressants de comprendre, de chiffrer quel sera l'impact concret pour l'économie. Je pense que c'est important. Mais ensuite de ça, on comprendra que quand on accède directement au gouvernement, on va demander des subventions, probablement de la protection. Donc, on ne veut pas répondre avec plus de chèques parce que c'est le consommateur qui ne gagnera pas. Ça, faut être clair. Maintenant, quand Jeff, tu parlais plutôt de la réglementation, de réduire la paperasse, il y a également des structures dans les politiques publiques où le bois coûte plus cher. Il y a tout ça qu'on pourrait réduire et qu'on doit réduire, c'est-à-dire lorsque l'État est dans les pattes, mais on ne veut pas un État qui va davantage donner plus de chèques parce qu'on comprend que ça va coûter plus cher aux contribuables, donc on ne gagnera pas collectivement. Alors, moins de fiscalité, moins de réglementation, certes, plus de subventions, absolument pas. Mais c'est ça le problème. Là, dans la cellule de crise, ce qu'on a l'impression, c'est que la proximité pourrait donner certaines tentations au gouvernement. Il ne faut pas aller là.
Pour rappel, on parle avec Gabriel Giguère, analyste politique senior de l'Institut économique de Montréal. Gabriel, on apprenait aujourd'hui que la guerre en Iran profite au gouvernement québécois grâce à la taxe sur l'essence en raison de la hausse des coûts du pétrole. C'est 50 millions de plus qui sont rentrés dans les coffres. Bon, on arrive en campagne électorale, t'es Christine Fréchette. Tu fais quoi avec ce 50 millions-là? Parce que, tu sais, 50 millions, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est peu pour un État. Donc, on joue ça comment?
T'as raison, Jeff, de le mentionner. C'est quand même conséquent, 50 millions, mais c'est un budget de plus de 150 milliards, là, donc on comprend quand même l'ordre de grandeur. Ce qu'on dit, c'est que d'ici la fin de l'année, on devrait être à 100 millions si la guerre en Iran ne se règle pas. Je pense qu'il y a plusieurs choses, là, parce que tous les Québécois le vivent. À la pompe, ça coûte cher. Le fédéral a fait sa part en suspendant sa taxe d'assises, puis on verra comment ça évolue, parce qu'elle pourrait revenir d'ici 3 semaines, 4 semaines. Mais au niveau provincial, il y a deux choses qu'on devrait faire, qui me semblent extrêmement clair. La première des choses, arrêtez de mettre la TVQ sur les autres taxes. Parce qu'on paye plus de... Ça, c'est ridicule. Première des choses. La deuxième chose, rapidement, je les vois venir, les politiciens, en me disant « Oui, mais tu sais, Gabriel, avec 8,6 milliards de déficit, c'est difficile de réduire. » Le revenu, je le comprends. Mais il y a des leviers qui sont jouables. La bourse carbone au Québec... l'équivalent de la taxe carbone essentiellement fait en sorte qu'indirectement, on paye plus cher. C'est une taxe indirecte. Donc, on paye plus cher l'essence d'environ 8 à 11 cents le litre. Comment ça se fait qu'on ne fait pas juste suspendre le fait d'appliquer la bourse carbone aux raffineries, ce qui mécaniquement va réduire le prix aux consommateurs? Et ça, ce n'est pas directement lié à l'enveloppe générale du budget. C'est lié au fonds vert qui essentiellement sert à financer des patentes à gosses qui nous coûtent trop cher. Donc, on pourrait réduire le prix à la pompe, mais on décide de rien faire au sein du gouvernement du Québec.
D'accord avec toi de le suspendre et non pas de l'annuler, comme le gouvernement fédéral a fait pour la taxe d'assises. Ceci dit, moi, je m'attends à ce que le gouvernement fédéral rendu au 7 septembre reconduise la mesure, là, à moins que Donald Trump ait trouvé un moyen de réouvrir le détroit d'Ormuz. Mais bon, ça, j'ai un négativisme très élevé. Alors, parce que veut pas, c'est encore des milliards de dollars de plus de profit pour le Canada. Là. Donc, le calcul qu'on a fait lorsqu'on a mis ça en avril va être encore bon en septembre.
Non, mais t'as raison. Tu sais, quand on le met de la. Quand le gouvernement Carney a décidé de la suspendre, c'est parce qu'on a vu une explosion des prix à la pompe. Donc, on s'est dit que ça risque d'être temporaire. Il y a beaucoup d'incertitudes là, dans cette crise-là. Je pense que depuis mars, donc dans les 5 derniers mois, on a dû entendre 45 fois que c'était fini, puis que finalement, aujourd'hui, on se parle, là, puis c'est pas fini. Là. Fait que ton optimisme assumé, plutôt ton pessimisme assumé, est totalement justifié. Fait que, effectivement, le gouvernement fédéral, je pense qu'il risque de le reconduire, mais encore une fois, rien n'est fait. Je pense que le consommateur souhaite que ce soit conduit aussi parce que 10 sous, ça fait une différence. Ben bref, oui. Les gouvernements doivent être conscients que l'inabordabilité, certes, est liée à la guerre en Iran, mais les taxes contribuent fortement à cette inabordabilité artificielle.
Et le gouvernement du Québec qui se défend, de ce qu'on comprend, on n'a pas nécessairement prévu faire quelque chose avec ce 50 millions-là. On se défend en disant qu'on a déjà réduit les coûts d'immatriculation. Est-ce que c'est vraiment un équivalent? Est-ce vraiment suffisant?
Une réponse facile, j'ai envie de dire. Je le comprends, puis c'est pas faux. Mais pourquoi on joue pas avec l'autre levier? La question de la bourse carbone, pourquoi on aujourd'hui, le fédéral suspend sa taxe d'assise de 10 sous? Québec peut faire l'équivalent, peut-être pas avec sa taxe du carburant parce que c'est directement lié à son budget. S'il est capable de le faire, tant mieux, ce serait la bienvenue, mais au moins avec la taxe indirecte de la bourse carbone qui réduirait de 8 à 10 cents. Il y a pas de Québécois qui serait contre ça, là. T'sais, parce que cet argent-là est envoyé pour des projets de gaz renouvelable qui coûte 5 fois plus cher que personne veut. T'sais, soyons sérieux, là. Laissons-le dans la poche des Québécois. Je pense que c'est ça qu'on a besoin aujourd'hui quand le prix de l'essence est très élevé comme c'est le cas depuis des mois.
Gabriel Giguère, c'est toujours un bonheur de te parler. Merci de m'avoir confirmé que la CAQ joue dans le même livre de jeu que le Parti libéral du Canada.
Un bonheur partagé. Salut, JF.
Salut, Gabriel Giguère, analyste politique senior pour l'Institut économique de Montréal, est avec nous à chaque semaine. On a fait le tour avec lui, justement, des derniers développements en ce qui a trait à cette guerre tarifaire. Donc, rien qui nous laisse présager que du côté... Ben, non, on a quand même un optimisme prudent avec le fait que là, Trump va avoir besoin de nous autres à un moment donné pour faire un gain en quelque part. On va voir qu'est-ce qu'on va perdre au change. Mais j'ai l'impression qu'on est quand même dans un bon momentum, mais je ne crois pas qu'on va signer une entente finale cette semaine ou au début de la semaine prochaine.
Puis honnêtement, même si on signe pas d'entente finale, là, moi pour moi, les chances que Donald Trump mette réellement ses menaces à exécution restent basses. Là.
Ben oui.
Donald Trump, par le passé, même sans avoir de concessions réelles, a retiré ses menaces de tarifs. Mm-hmm. Je sais pas si vous vous en souvenez, quand il avait eu son trip de fentanyl, on a nommé un tsar du fentanyl, puis ça lui a suffi à retirer ses tarifs. Non,
c'est ça. Le fameux taco, là, Trump always checking out.
Ben exact. Fait que même si on donne pas de concession, la question est la suivante. Mm-hmm. Vas-tu vraiment mettre ses menaces à exécution cette fois-ci? Je pense que non.
J'en doute fortement.
On en jase.
On va parler de consommation avec vous, chers auditeurs et auditrices. 418-971-1021 pour interagir. Je suis tombé là-dessus hier, Mathias, plus ce matin. C'est une lettre d'opinion qui a été écrite dans le Journal de Québec, Journal de Montréal. C'est une lettre d'opinion de Pierre Leclerc, directeur général de l'Association québécoise de l'industrie du chanvre et du cannabis. Monsieur Leclerc, ce qu'il vient nous expliquer, c'est qu'il souhaite ardemment que le gouvernement revoie sa réglementation en termes de vente de cannabis et que, présentement, dans une SQDC, tu as besoin d'avoir au moins 21 ans. Il souhaite qu'on abaisse la limite à 18 ans, comme pour l'alcool. Dans son documentaire, il dit qu'il y a plus de 15 000 jeunes de moins de 21 ans qui se sont vus refuser l'accès aux succursales de la Société du cannabis, c'est-à-dire la SQDC, l'an dernier. Donc, il mentionne que ces 15 000 personnes-là se sont retrouvées à acheter du pot dans des milieux illicites, donc ont encouragé le crime organisé et le commerce illégal. Et il mentionne également qu'à l'heure actuelle, justement, on a réussi à franchir la barre dans ce qu'on regarde de la consommation de cannabis. Elle est rendue à 56 % en ce qui a trait qu'elle provient du... C'est même 60 par la consommation québécoise qui sont accaparées par le marché légal. Alors, il mentionne que ce serait une façon de faire en sorte qu'on augmente cette part-là. Et il dit que les craintes en ce qui a trait justement à la hausse de consommation du cannabis chez les jeunes ne se sont pas matérialisées, les craintes qu'on avait à l'époque de la légalisation en 2019. Il parle d'une industrie en parallèle, l'industrie québécoise du cannabis, qui s'est professionnalisée. C'est plus de 200 entreprises innovantes à l'heure actuelle sur notre territoire. Moi, je dois t'avouer immédiatement que j'ai toujours eu un préjugé négatif pour le cannabis parce que, d'un, c'est quelque chose que tu t'envoies directement dans les poumons. Fait que je pense à mes enfants qui font beaucoup de sport. Je pense au fait qu'on veut développer les saines habitudes de vie au niveau de la population. Puis je vois aucun lien je ne vois aucun effet direct positif avec ça. Également, moi, je ne le cache pas, j'ai des gens dans mon entourage qui ont été des forts consommateurs de cannabis. Puis, écoutez, ils en ont fait des psychoses. Le cerveau a été magané pas à peu près par la consommation de cannabis. Ceci dit, il y a aussi beaucoup d'effets secondaires pour ce qui a trait de l'alcool également. Bon, on n'a qu'à penser, là, je suis certain qu'on a tous dans notre dans nos amis, quelqu'un qui prend de l'alcool devient trop agressif. Ça peut évidemment causer des cancers, il y a des problèmes au niveau de la digestion. Mais moi, personnellement, je ne suis pas rendu à me dire « OK, un kid de 18 ans qui va aller à SQDC puis qui va acheter du pot. » 418-971-1021, vous en pensez quoi? Est-ce qu'on rouvre le débat ou non? Dites-nous votre opinion. Moi, je ne toucherai pas à ça pour le moment, pour le prochain cycle de la période électorale. Je veux qu'on ait plus de données encore probantes.
Ben moi, c'est qu'il n'y a pas grands arguments qui m'achètent ben. À commencer par l'argument de « Ouais, l'alcool, c'est pas bon pour la santé non plus, puis c'est 18 ans.
Oui. »
Mais quelle comparaison ridicule. Excuse-moi, justement, tu dis que l'autre n'est pas bon non plus. C'est pas parce que l'autre, c'est à 18 ans que c'est correct de dire « Hey, on va légaliser plein de choses qui sont pas bonnes pour le développement des jeunes adultes à 18 ans parce que l'alcool est légal. » Pour moi, c'est pas un argument. Après ça, de dire 15 000 jeunes de moins de 21 ans se sont vus refuser l'accès aux succursales, fait qu'il faudrait abaisser l'âge légal. On abaisse-tu l'âge légal de l'alcool à 16 ans parce qu'il y a des jeunes de 16 ans qui se font carter puis qui se font dire non d'acheter leur alcool?
T'as raison, c'est un bon point.
Dans le sens, est-ce qu'on rend légal n'importe quelle drogue parce que ça crée un marché noir? Tu sais, on a réussi. C'est correct, là, c'est légalisé, puis il y a une consommation contrôlée, puis c'est vraiment correct chez beaucoup de personnes qui en consomment les fins de semaine. Puis c'est bien parfait, libre à tout le monde. Sauf qu'à partir du moment où on a 21 ans, là, on a réussi à trouver un équilibre qui fonctionne bien. Pourquoi on amènerait à 18 ans pour... Tu sais, cet équilibre-là qui se crée, j'ai envie de dire, autour de justement 18-19 ans, que c'est normalisé dans notre société. Fait qu'à 18-19 ans, il commence à avoir un intérêt à ça. Mais de l'abaisser à 18 ans, ça ferait en sorte qu'il y aurait peut-être un intérêt un peu plus fort à 15-16 ans parce que c'est rendu normal à 18 ans que tu peux consommer ça.
C'est un bon point. Puis là, le comparatif avec l'alcool tient beaucoup, honnêtement, dans ce que tu racontes, là, selon
moi. Mais mettons, avec l'alcool, on commence à boire à 15 ans. Pourquoi? Ben oui. Parce que c'est normal. À 18 ans, anyway, je vais pouvoir aller m'en acheter par moi-même. Fait que cette logique-là serait répétée probablement avec le cannabis si on vient à réduire l'âge légal à 18 ans.
Moi, j'ai aussi une crainte, puis peut-être que c'est une crainte, puis c'est un préjugé que j'ai, mais qui n'est pas matérialisé. Il faudrait que je me documente un petit peu plus là-dessus, que je parle à une spécialiste. Mais ce que je me rends compte souvent, c'est que chez les polytoxicomanes, ben, ça a toujours commencé par un joint. Vous allez me dire, chez les alcooliques aussi. Mais tu sais, là, quand on est rendu à parler de drogue dure, de méthamphétamine, de cocaïne, voire même de crack, moi, je trouve que c'est très, 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 très ravageur pour l'être humain. Alors, j'ai cette crainte-là aussi que à banaliser le pot, on en arrive là. Plusieurs réactions. Joël qui dit « Je vois ça au même titre que l'alcool. » Donc, lui est en accord avec M. Leclerc. Merci, Joël, pour ton commentaire. On parle de manque de prévention. Je suis totalement d'accord. Puis ça, je pense que pour l'alcool aussi, là, on a à se regarder là, dans le miroir là, en termes de prévention pour la population.
Mais le cannabis au volant. Moi, je tiens à dire, là, j'ai beaucoup d'amis que j'ai côtoyés du côté de Jonquière qui étaient des consommateurs de cannabis. Environ 19-20 ans, ces personnes-là fumaient puis conduisaient après.
T'as
puis parlaient raison. Comme si c'était normal. Il faudrait qu'on réussisse à inculquer un peu plus au sein des plus jeunes que non, c'est pas normal de fumer puis après ça prendre le volant.
Exactement. Ici, on a un auditeur qui nous dit « Hey, moi, je prends du cannabis régulièrement depuis l'âge de 15 ans. J'ai maintenant 42 ans. 18 ans, non, mais 19 ans comme les autres provinces. » Ouais, commentaire très intéressant. « Ils sont en train d'étudier le cannabis et le sport, nous dit un autre auditeur auditrice. Le conseil que je peux donner, c'est, pas avant le sport, sinon petit breton longtemps, là, en voulant dire qu'on va rester on va rester très sédentaire à la maison. Et les fumeurs de cigarettes ont commencé avec une puff aussi. Ben en effet, ça commence tout par là. Les alcooliques ont commencé avec une bière dans un party, puis les fumeurs de cigarettes avec une puff, puis les fumeurs de cannabis avec une puff aussi. Moi, honnêtement, présentement, j'ai pas assez de données scientifique pour me dire « Hey, ouais, ça vaudrait la peine de descendre ça à 18 ans. » Je pense qu'on s'est donné comme société que c'était 21 ans. J'entends pas beaucoup de gens remettre ça en question à l'heure actuelle. Donc, je trouve j'étais à l'encontre de cette lettre d'opinion.
Au cours des dernières semaines, c'est beaucoup les producteurs là, de cannabis qui remettent ça en question, j'ai envie de dire. Là, on a vu certains témoignages au cours des dernières semaines dans les différents journaux. Il y a un texto qui dit « À mon humble avis, ils vont en acheter quand même. Pourquoi pas augmenter l'âge pour la boisson à 21 ans rendu là, si on suit cette logique-là? » Puis dans un certain sens, là, l'âge légal pour l'alcool serait mieux à 21 ans. T'sais, dans le sens, ce serait mieux pour notre société si on commençait à boire plus tôt. On a fait le choix de société de mettre l'âge pour l'alcool à 18 ans. J'ai envie de dire, c'est difficile de réglementer.
Ben là, vu que c'est en creux, tu mettras pas ça à 21 ans.
La société agit comme ça, puis tout.
Exactement.
Mais là, est-ce qu'on veut dire on va refaire le même scénario avec le cannabis en disant, regarde, on l'a fait pour l'alcool?
Non, je suis entièrement d'accord avec toi. Puis justement, ça rejoint ce que Kim nous dit. Pourquoi toujours revoir ce qui fonctionne? C'est légal, là. Laissons ça comme ça. Batins, investissons notre temps dans d'autres choses gouvernementales. Je suis entièrement d'accord. Merci pour vos réactions. 418-971-1021. C'est très apprécié de vous lire. C'est très apprécié de savoir que vous participez à cette émission. On en jase. Courte pause, on revient avec l'essentiel de l'actualité. Puis je vais vous poser la question suivante. Voulez-vous passer votre vie en pyjama? Hein? En mou? Ben voyons donc.
Ça serait fantastique.
Ça pourrait exister. On vous en parle après la pause. Ah que c'est le fun. On a continué, moi et Mathias, notre débat, nos arguments concernant la consommation du cannabis à 18 ou à 21 ans. Très plaisant. On parlait du cannabis et on disait « Ouais, le cannabis, là, ça s'en va directement dans les poumons. Ton système cardiovasculaire est directement affecté. Ta respiration, tes réflexes cognitifs, ça rime pas du tout avec le sport. » Mais parlant de sport, Matt, on a un super bel événement demain au Centre Vidéotron. C'est la 18e édition du Pro-Am Sun Life. Le Pro-Am, ça sert à quoi? Ça sert à financer 6 organismes qui travaillent avec la jeunesse, soit le Pignon Bleu ici à Québec, la Fondation Leucan, la Fondation Philippe Boucher, la Fondation Maurice Tanguay, la Fondation des Canadiens pour l'enfance et les œuvres Jean Lafrance. Ça commence dès 15h, demain après-midi, place Jean Béliveau. Alors qu'il va y avoir un énorme tailgate, on profite du kiosque de nourriture, de boissons, stand d'exposition, des jeux extérieurs, de l'animation et la prestation musicale continue de DJ Ben Québec. On a le match des légendes à 17h50, mettant en vedette le capitaine Pro-Am Bleu Simon Gagnon, capitaine Pro-Am Blanc Patrice Bergeron. On va en profiter aussi pour saluer le fait que Patrice Bergeron, notre joueur natif d'ancienne Lorette, va être intronisé au temple de la renommée du hockey et va voir son numéro 37 être retiré par les Bruins de Boston. À 19h, c'est la classique Pro-Am qui met en vedette des joueurs de la Ligue nationale et des joueurs amateurs. Philippe Dano est le capitaine des Nordiques Blancs. Zachary Bolduc, le capitaine des Nordiques Bleus. Il y a plein d'anciens joueurs des Remparts qui sont là, notamment Nathan Gaucher et James Malatesta, qui ont remporté la Coupe du Président et la Coupe Memorial. Venez soutenir la cause et évidemment dans l'entraque également. Il y aura une multitude d'animations. Vous dites « Wow, c'est donc bien cet événement-là, Jeff! » Bien, ça tombe bien. J'ai 2 paires de billets à vous faire tirer. Je viens de nommer 4 noms de joueurs de hockey. 2 anciens, 2 actuels, de l'édition du Canadien de Montréal. Vous textez votre nom, votre numéro de téléphone avec le nom d'un des 4 joueurs de hockey que je viens de mentionner. Et vous courez la chance de remporter votre paire de billets pour assister gratis, là, gratuitement, au Pro-Am Sun Life demain au Centre Vidéotron. Puis pour ceux qui n'ont pas leur ticket, hey, c'est 20$. Va sur ticketmaster.ca, commande ça, va voir des excellents joueurs de la Ligue nationale de hockey et contribue à cette superbe cause qui est là depuis 18 ans. Déjà. Alors, je le rappelle, 418-971-1021, ton nom, ton numéro de téléphone, puis un des 4 joueurs que j'ai nommés, il y en a 2 anciens, la région de Québec, un qui est DG des Remparts, un autre qui joue pour les Bruins de Boston, puis 2 joueurs actuels de la formation du Canadien de Montréal. Je pense que j'ai donné des bons indices.
Ça donne quelques indices, mettons.
C'est pas pire, hein? Excellent. Donc, textez-nous au 418-971-1021. En attendant, Mathias, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité?
Ouais, ben je commence par une nouvelle qui vient de tomber du côté de la presse. C'est le gouvernement du Québec qui aurait présentement une somme de 37 millions de dollars qui est censée servir à aider les locataires dans le programme, dans le cadre du programme de supplément au loyer. Ça, en gros, ce qu'on fait, c'est que pour aider à sortir des gens de la rue, on paye une partie de leur loyer. Donc, on calcule 30 % de leur salaire, puis on paye le reste du loyer par la suite, par-dessus le montant qu'ils peuvent payer, pour les permettre de se reloger. Ce qu'on nous apprend, c'est que ce programme-là devrait permettre d'aider au total 51 300 locataires en subventionnant une partie de leur loyer. Mais que présentement, c'est juste 44 300 ménages qui en bénéficient. Donc, c'est environ 37 millions de dollars qui n'est pas utilisé. Ce qui explique ça, c'est que le programme a des critères d'admissibilité qui sont jugées très strictes, que, notamment le propriétaire qui doit signer un contrat pour que le locataire ait accès à cette subvention-là, puis que le loyer ne doit pas dépasser un certain montant. Donc, de ce qu'on comprend, les loyers actuellement sont tellement chers qu'il n'y a pas assez de personnes qui sont capables de se trouver un loyer qui se qualifie dans le programme.
Je peux pas croire qu'on n'augmente pas juste la prime. T'sais, j'ai fait un calcul, admettons que c'est 1000 $ par mois que tu donnais à quelqu'un justement parce qu'il serait dans un loyer plus élevé. Exemple, il va être dans un 4,5 à 1 700 $ par mois. Puis là, on va lui dire, hey, regarde, on te donne 1 000 $, fait que c'est 12 000. Donc, on pourrait loger 3083 personnes avec le 37 millions dans des logements qui présentement sont vacants et qui sont considérés non abordables. Ils sont vacants, les logements, là.
Ils servent à rien.
Ils servent à rien, là. C'est des pièces vides. C'est des locaux vides. Et go. On va loger 3083 personnes à travers la province grâce à ce supplément-là du logement. Tu sais, quand des fois, là, on l'a vu avec les dossiers d'immigration là, la semaine dernière, là, tu sais, où le fonctionnaire dit « Ah, t'as quitté le pays, même si c'est pour les funérailles de ta fille, puf, je t'enlève ton permis. » Ben, j'ai l'impression que c'est exactement ça qu'on applique là aussi. « Ah, c'est censé être pour des loyers de 1 400 $ et moins, hein, je nomme un chiffre fictif. » Toi, il est 1525? Non. Attends une minute, c'est parce que la personne va se retrouver à la rue. Il n'y en a plus de logement à 1400.
Puis moi, il n'y a personne qui lève la main pour dire, hey, en passant, puis qui l'envoie aux instances d'en haut, encore une fois, qui dit, hey, il nous reste des argent, mais on ne peut plus le distribuer. Qu'est-ce qu'on fait?
Exactement. On peut-tu améliorer cette pensée collective-là, même si on est dans la fonction publique? Puis je le sais, vos syndicats vous disent « Faites-en pas plus! Écoutez juste ce que vos patrons vous demandent! » Puis que les patrons, ben, ils ont un manque d'ouverture puis ils ont bien de la misère à vous écouter. On peut-tu encore avoir ce gros bon sens-là de dire « Hey, attends une minute, là. Il y a une personne qui m'arrive, puis là, je nomme des chiffres fictifs, je ne connais pas le plafond. Le plafond est à 1 400, elle m'arrive à 1 525, j'ai dit non. » OK, il va arriver quoi si j'ai dit non? Bon, ben, elle va essayer de payer son loyer 3-4 mois, puis après ça, ben, elle va tomber dans la rue. Mais on pense pas à ça. On fait juste appliquer la procédure, peser sur le bouton rouge ou vert.
En gros, là, ce qui détermine le loyer qui peut être accessible, c'est que si il peut être accepté s'il représente de 120 % à 150 % du loyer médian du marché. Auparavant, c'était seulement la médiane du marché du secteur qui était admissible au programme. Maintenant, on peut dépasser encore. Mais il peut être accepté. Mm-hmm. Donc, il peut être refusé également si jamais il dépasse ce montant médian-là.
Exactement. Des bons textos qui sont rentrés, c'est peut-être le signe que les loyers sont beaucoup trop chers. En effet, moyenne des 4,5, c'est du 1 300 et plus. Ah oui, je choisirais les 4,5, c'est peut-être même rendu du 1 500, 1 600, malheureusement. Donc, c'est ça, on dit que les fonctionnaires n'ont pas le luxe de choisir, mais si on veut dégraisser l'État, à un moment donné, il faut avoir les fonctionnaires avec des responsabilités additionnelles puis prennent ces décisions-là.
Ce ne sont pas les balles de la policière du SPVM qui ont mené à la mort du civil lors de la fusillade dans Côte des Neiges le 22 juin dernier. C'est la presse qui nous a appris tout ce matin. Une vidéo de la scène qui avait fait le tour d'Internet. Et sur celle-ci, on pensait que la policière avait tiré sur le civil. Finalement, selon l'analyse menée par le laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale, les projectiles qui ont atteint la victime sont du calibre du tireur et non de la policière. Ce que nous rapportait Radio-Canada aussi, c'est que les projectiles qui ont touché l'homme à la tête provenaient de gauche à droite et non de haut en bas, donc forcément du tireur également. Ce qu'on nous indique puis qui a retenu mon attention dans l'article de Radio-Canada, c'est que la policière aurait reçu des menaces de mort alors qu'elle était toujours dans un état critique à l'hôpital à la suite de ces événements-là, parce que certaines personnes pensaient que c'était la policière en question qui avait abattu l'homme. Le Parti québécois présente son plan environnemental 2026-2034 pour la prochaine campagne électorale. La chose qui retient l'attention, c'est une nouveauté, la passe mobilité. Le PQ qui voudrait mettre en place une passe universelle pour toutes les sociétés de transport en commun au Québec pour un coût mensuel de 95 $, ce qui veut dire tu payes 95 $ par mois. Bien, tu peux prendre le transport en commun à Québec, au Saguenay, à Montréal et dans toutes les autres villes qui ont un transport en commun, Sherbrooke par exemple. Ouais. Ça, c'est la mesure phare. Il y a d'autres mesures également. Selon les projections du Parti québécois, toutes ces mesures-là permettront aux ménages de faire des économies directes de 3 000 à 4 000 $ par année. Bon, ben, ce chiffre-là, je ne sais pas comment qu'on a fait le calcul, mais c'est le chiffre qu'on donne du côté du PQ. On en a profité aussi aujourd'hui pour annoncer notre nouvelle candidate dans Berthier, Elsie Lefebvre, pour le Parti québécois. C'est un retour en politique pour l'ancienne chroniqueuse de Québécois. Berthier, une circonscription assez sûre pour le PQ. Là, on mène présentement à 47 % sont les projections. La CAQ qui suit à 26 %. Et de ce qu'on comprend des propos du chef du PQ, Elsie Lefebvre, qui normalement devrait être ministre.
Elle n'est pas partie pour rien des médias de Québécois, où je suis convaincu, puis avec raison, parce qu'elle faisait un bon travail, gagnait un bon salaire. Donc, c'est sûr qu'on lui a promis des choses pour la convaincre de faire un retour en politique.
Après son absence lors du point de presse du service de police de la ville de Montréal d'hier, par rapport aux événements de racisme qui sont survenus au poste de quartier 39 à Montréal-Nord, la mairesse de Montréal, qui a quand même réagi aujourd'hui, elle a dit, et pour la citer directement, le chemin devant nous, qui est celui de rebâtir la confiance, va être long, va être difficile, mais je suis convaincu et plein d'espoir que c'est quelque chose que nous allons réussir ensemble, avancer à mairesse de Montréal aujourd'hui durant une séance du comité exécutif. Nouveau sondage Synopsis à la presse qui vient quand même confirmer le sondage
léger qu'on avait avec le
d'hier. Le PQ à 30 % le Parti libéral qui s'en sort mieux qu'hier à 26 %, la CAQ à 20 %. Très bon sondage pour le Parti conservateur qui mène fortement dans la région de Québec. 15 % des intentions de vote au Québec et QS qui reste à 9 % pour le moment.
On va avoir Étienne Grandmont dans quelques minutes avec nous. Il sera en ligne. C'est le député de Taschereau, les candidats dans Taschereau, évidemment, pour Québec solidaire. On parlait entre autres du pont de Québec, le manque de place pour les cyclistes. On abaisse-tu le tablier? On l'abaisse-tu pas? La vitesse des automobilistes et des camions sur le boulevard Champlain. Puis je veux qu'on parle de Saint-Roch et d'itinérance. Il n'y a pas de doute dans mon esprit.
Il y aura une éclipse solaire partielle cet après-midi.
Non, on la verra pas!
Ouais, c'est ça que j'allais dire. L'éclipse solaire qui est prévue à Québec à son paroxysme environ vers 13h45, qui devrait commencer au cours des prochaines minutes. C'est 24 % du soleil qui sera couvert lors de l'épisode. Mais à voir le ciel actuellement, je pense pas qu'on voit bien cette éclipse solaire. Et je termine avec un deuil de 3 jours qui aura lieu en Colombie en l'honneur des victimes du séisme qui a frappé le pays lundi. Le bilan qui a continué d'augmenter. On est maintenant à au moins 216 morts et plus de 2000 blessés pour ce qui aura été le tremblement de terre le plus meurtrier du siècle en Colombie.
Mathias Turcotte, si je te dis qu'en mars dernier, la plus grosse transaction de l'histoire du sport pour un rachat de franchise s'est produite, c'était les Celtics de Boston, une équipe fort connue dans le monde de la NBA, une des franchises phares justement de la Ligue, et que ça s'est fait à 6 milliards de dollars. Aujourd'hui, les Lakers de Los Angeles ont changé de propriétaire. Ils ont été rachetés par les hommes d'affaires américains Josh Kushner et Bob Edger. Eux, ils voulaient un club à Las Vegas, mais là, ils viennent d'acheter les Lakers de Los Angeles. Fait qu'on lit entre les lignes qu'il n'y aura pas d'expansion dans la NBA. À combien tu crois c'est chiffré cette transaction?
C'était 6 milliards en quelle année?
C'était 6 milliards. L'an passé, en mars 2026.
Puis on voulait vraiment... 8,6.
T'es même pas proche. C'est 12 milliards de dollars.
Ça a
doublé entre mars et août.
Mais voyons donc.
Les Lakers de Los Angeles, la concession mythique de la NBA, s'est vendu 12 milliards de dollars aujourd'hui selon ce qu'a rapporté ESPN. Le propriétaire actuel, Mark Walters, lorsqu'il a été approché par les deux hommes d'affaires, il a dit « Non, il n'y a pas question, moi. Les Lakers, ça, je vends pas ça. Moi, je les garde. J'aime ça. Je suis un fan de basket. Ça vaut des milliards de dollars. Puis je suis pas prêt à le vendre tout de suite. » Mais quand ils ont mis 12 milliards sur la table, il a fait « Ben, c'est bon, on va signer. »
Ouais, c'est réglé. Merci beaucoup.
On va signer, je vais acheter mes billets de saison. Là. Une petite loge, hein? On va prendre une loge.
Hey, passez une belle saison, les amis. C'est ça a été un plaisir de faire affaire avec vous.
Tape là-dedans, c'est le transfert. Alors, 12 milliards de dollars, quand on dit que le sport, présentement, il n'y a pas de limite. Là, c'est fou, complètement fou. Mais le pire, c'est qu'ils vont réussir à faire de l'argent avec. C'est ça qui est le pire, tellement que c'est lucratif, les Lakers. Plus près de chez nous, au Stade Canac, les Capitales de Québec l'ont emporté 12-4 hier face aux Rocks de Broxton. Je vous rappelle que c'est le match Boulevard 102-1 jeudi le 20 août prochain. On va être là, tous les animateurs avec vous, et également les Jays de Toronto qui l'ont emporté hier par la marque de 5-3 sur les Red Sox de Boston. 9e victoire en 13 matchs. Les Jays ne sont qu'à 2 matchs et demi des séries. Courte pause, Étienne Grandmont. Suis un instant. Émission d'En Jase, votre émission d'actualité d'opinion sur l'heure du midi à l'antenne de Boulevard 102.1, animée par Jeff Fortin avec Mathias Turcotte pour jusqu'au 24 août. Par la suite, Denis Gravel suit 14h à 18h avec Audrey et Véro. Puis on commence ça le matin avec Marceau le matin. Il nous parle le soir aussi à 18h, puis le matin de 6h à 10h. Et ne manquez pas le point de Max avec Max Larouche. Météo, je vous le rappelle, il y a des risques d'averses et d'orages aujourd'hui. C'est 24 degrés. Demain, 22 degrés, 60% de possibilité d'averses également en après-midi. Vendredi, samedi, ensoleillé, 23 et 24 degrés. À la circulation, Mathias?
Oui, Laurentienne, direction nord, accès depuis Louis XIV, qui est présentement partiellement entravé en raison d'une panne. Vous mentionnez en même temps 20 direction ouest entre Taniata, président Kennedy, bien sûr, c'est très difficile. Guillaume Couture, hauteur chemin du fleuve, en direction ouest, c'était très difficile aussi. Henri IV, direction sud, à hauteur de Charest, un peu d'attente. Et même chose pour Charest, direction est. Pour prendre Robert Bourassa, c'est au rouge. Quoi que ce soit d'autre, 418-971-1021, c'est par texto.
Je vous rappelle, en revenant au bureau, blvd.fm, c'est notre web radio. Si vous êtes en télétravail à la maison, vous dites à votre haut-parleur intelligent, écoutez BLVD 102.1 et on apparaît dans vos oreilles. À Boulevard 102, on est une radio locale et on est fiers de l'être. Et comme on est une radio locale avec des artisans de Québec, avec des propriétaires qui viennent de Québec, c'est-à-dire la belle famille Leclerc, bien, ce qu'on fait, c'est qu'on traite des sujets en priorité de notre capitale nationale. Et c'est le temps de faire le tour de trois sujets, c'est-à-dire Pont de Québec, sécurité routière et Saint-Roch et itinérance, avec le candidat pour Québec solidaire dans la circonscription de Taschereau. Il a été justement député de Taschereau lors des 4 dernières années. Étienne Grandmont. Monsieur Grandmont, merci pour votre disponibilité aujourd'hui.
Ça fait plaisir, merci pour l'invitation.
Ça fait plaisir. Étienne Grandmont, vous êtes un coureur, je vous ai vu au demi-marathon de Lévis. Vous êtes aussi un cycliste, puis là, comme tous les cyclistes, quand vous passez sur le pont de Québec, vous dites « aïe, 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 coudon, je vais-tu tomber dans le fleuve? »
Oui, je suis aussi un automobiliste, là. Je tiens à rassurer tout le monde. Je n'ai pas là des transports actifs.
Vous le faites bien.
Utilisateur d'autobus aussi. J'utilise tout le temps le meilleur moyen de transport là, à ma disposition pour faire mes déplacements. Mais cela dit, oui, cycliste récréatif notamment aussi. Puis oui, je passe par le pont de Québec. Une des belles randonnées que je fais à Québec, là, c'est à traverser par le traversier. Je m'en vais à Lévis, je fais le parcours de Lens, reviens par le pont puis par le boulevard Champlain. C'est magnifique. Mais il y a un moment où on n'aime pas être sur son vélo, c'est effectivement sur le pont de Québec. C'est désagréable, c'est inconfortable. On n'est pas capable de se doubler sans mettre le pied à terre. C'est vraiment pas une infrastructure de transport, en fait, cyclable, digne de ce nom-là.
Qu'est-ce qu'on devrait faire avec le pont de Québec? Est-ce qu'on devrait, comme on est en train de l'étudier, abaisser le tablier pour agrandir cette piste cyclable-là sans nécessairement vraiment perdre de voie de circulation?
Exactement, c'est ce qu'on propose, nous, chez Québec solidaire. Il y a une opportunité qui est devant nous, puis vous l'avez nommée, c'est que le gouvernement du Québec, qui est locataire du passage pour les voitures et donc propriétaire aussi du tablier, donc la surface sur laquelle les voitures roulent. On se rappelle que le pont appartient au fédéral, là, mais le Québec possède cette surface-là. Le tablier, là, donc sur lequel les voitures roulent, doit être refait. Le gouvernement du Québec et le ministère des Transports a fait une première proposition à la Société des ponts qui gère en fait le pont de Québec. Trop lourd, pas adapté à la structure du pont de Québec. Mm-hmm. Surtout, il refaisait à l'identique, donc il ne l'abaissait pas.
Okay.
Et ce qui pourrait être fait, effectivement, c'est de l'abaisser. Puis vous voyez un peu la charpente du pont de Québec quand on passe dessus. Là, il y a comme des poutres qui sont en diagonale. Alors vous comprenez que si on abaisse le pont, on s'en va vers la base d'un triangle qui est plus large et donc ça donne de l'espace supplémentaire et pour les voitures et pour les cyclistes, mais aussi, ça c'est important de le rappeler, si on abaisse le pont, c'est que ça permettrait de faire passer des véhicules plus hauts, donc des camions qui actuellement ne peuvent pas passer sur le pont de Québec, et aussi éventuellement des véhicules de transport collectif de plus gros gabarit comme un SRB ou un tramway. Donc, c'est aussi la clé de voûte pour être capable de faire une très bonne liaison de transport collectif entre Québec et Lévis.
Est-ce qu'on connaît les coûts qui seraient reliés à ce projet?
Je ne les connais pas. Ça n'a pas été rendu public encore. Par contre, ce qui est important de se rappeler, c'est que si on le fait bien, on se donne un 50 ans avant de le refaire, 50 ans,
okay,
où on pourrait justement faire passer donc davantage, plus de confort pour les cyclistes, mais aussi du transport collectif de plus gros gabarit. Alors qu'au contraire, si on maintient le tablier à la même hauteur, si on ne l'abaisse pas, on vient de geler ça pour les 50 prochaines années. Ce n'est pas des petits travaux, là. Donc,
non,
on a une opportunité. Et ce que j'ai compris de la première ministre actuelle, Christine Fréchette, pendant sa course à la direction de son parti contre Bernard Drinville, elle s'était engagée à abaisser le tablier du pont. Et ce que j'ai appris, moi, c'est que les ingénieurs du MTQ qui travaillent sur les scénarios de tablier du pont ne se sentent pas liés à cette promesse-là et donc ne travailleraient pas là-dessus en ce moment.
Okay.
Donc, on est en train de perdre du temps et peut-être de perdre une opportunité historique.
Donc, de ce qu'on comprend, la première ministre l'a promis, mais n'a pas donné la directive au ministère des Transports ou du moins aux fonctionnaires de celui-ci de travailler sur cette possibilité-là.
Ben, y a quelqu'un qui n'a pas fait sa job d'envoyer le message puis de forcer les ingénieurs puis les gens qui travaillent là-dessus à travailler là-dessus, là. Fait que le message s'est pas rendu visiblement, selon les informations que j'ai. Après ça, peut-être que ça s'est fait depuis, mais moi, c'est pas l'info que j'ai.
Ben, ce matin, dans Marceau le matin, on en a parlé justement avec Benoît Charrette, le ministère des Transports. L'entrevue est disponible sur blvd.fm, ministère des Transports et également de la mobilité durable. Puis ce qu'il nous a dit, c'est que c'est resté dans une zone grise, je vous dirais, à savoir
exactement
si c'est étudié ou non. Donc, on va faire notre travail aussi parce que, tu sais, moi, je suis pour la logique. Puis, ce serait logique de l'abaisser si c'est faisable, parce qu'on répond au transport actif, on ne vient pas justement piéter sur une voie de circulation pour le transport automobile, puis on peut permettre le transport lourd et le transport en commun. Fait que moi, pour moi, il y a juste du positif à le faire.
Exact. Après ça, il y a un enjeu, c'est évidemment, on abaisse le tablier du pont, ben là, il faut l'enlever au complet pour en refaire un plus bas, alors que s'il reste à même hauteur, on peut faire ça voie par voie.
Mm-hmm.
Donc, à court terme, ça peut avoir un impact plus grand sur la circulation. Mais est-ce qu'on va se priver de cette opportunité-là pour les 50 prochaines années, alors que ça pourrait occasionner un problème de circulation à très court terme, puis sur pas trop longtemps, une couple de semaines, alors que il y a d'autres options pour se déplacer intérêt. Puis en plus, on a le télétravail, puis on peut faire ça pendant l'été. Il y a plein d'autres options, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, comme vous dites, là, moi, je pense qu'il faut être logique puis agir dans le sens de l'intérêt commun, là.
J'adore nos auditeurs qui réagissent toujours très fortement à nos entrevues ou nos discussions. Puis il y en a plusieurs qui parlent de l'intégralité de la structure. Est-ce que, dans ce que vous savez, ça serait difficile pour la structure d'avoir un tablier plus bas?
Non, ça ne changerait rien. Apparemment, là, ce qu'on me dit, moi, c'est que ça serait correct pour le supporter. En fait, l'important, c'est d'avoir une structure qui est assez légère pour respecter les contraintes, pas les contraintes, mais les forces, la résistance là, du pont de Québec. Puis évidemment, ce pont-là, même si on sait que bon, il y a des éléments qui sont rouillés, mais il est encore très solide, encore faut-il bien l'entretenir. Ça, on va continuer à mettre de la pression, évidemment, sur le fédéral. Mais au moins, il appartient plus au CM. Fait qu'au moins, on peut faire une pression politique, alors que le CM, c'était plus difficile de faire.
Pour
l'améliorer. Là, on sait, là.
Quelle organisation qui n'avance pas que le Canadien national, ça n'a aucun sens. Quand vous parlez de structure plus légère, ça veut dire qu'on le ferait pas en asphalte, le tablier qu'on abaisse.
Ben, il y a toujours beaucoup d'asphalte, mais c'est la structure en dessous de l'asphalte qu'il faut qu'il soit de la bonne matière, puis de la bonne composition, puis de la bonne structure.
De même, on avait parlé d'aluminium, si je me trompe.
J'ai parlé avec un chercheur aussi qui me parlait d'acier orthotrope.
OK.
Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Chose certaine, c'est que la structure qui avait été proposée par le MTQ, c'est-à-dire juste une espèce de dalle de béton, ça, c'est trop lourd. Ça fonctionne pas. Une dalle de béton armé, là, ça fonctionne pas. C'est pas le genre de technologie. Et ça, c'est vraiment trop lourd.
Autre dossier qui vous concerne, c'est le boulevard Champlain.
Oui.
Ça circule vite. Ça circule vite avec les camions. Moi, c'est un endroit où j'adore aller me promener également. J'adore aller courir. Je le constate à chaque fois que je me retrouve là. Puis surtout dans le tronçon, là, moi, j'aime bien là, justement courir dans le petit Champlain, puis après ça, m'en aller vers les escaliers du Cap-Blanc. Puis je me rends compte que dans le petit quartier, ça roule vite en crime à côté. Qu'est-ce qu'on peut faire pour régler la situation? Est-ce que ça appartient à la ville de légiférer ou c'est le gouvernement qui peut s'en mêler également?
Ben, c'est sûr que on est sur une route qui appartient au gouvernement du Québec, mais qui a donné une responsabilité de gestion à la Ville de Québec. Donc, évidemment, c'est multipalier, c'est multigouvernement pour la responsabilité en termes de sécurité routière. Moi, j'étais très content là, que le comité de citoyens du Vieux puis le conseil de quartier du Vieux-Québec m'interpelle sur cet enjeu-là et les citoyens qui m'en parlaient aussi. Donc, on a voulu vraiment intervenir. Vous savez, cette section-là là, qui est la petite partie habitée, dans le fond, passer la partie un peu plus touristique là, de Québec. Là. Cette partie-là, dans le fond, est habitée. Puis c'est la seule partie qui n'a pas été refaite depuis...
Avec les travaux de réaménagement.
La promenade de Champlain, là, promenade de Champlain là, Samuel de Champlain. Donc ça, ça n'avait pas été refait. Puis c'est resté à l'identique. Donc c'est comme une espèce de reliquat de l'ancien boulevard Champlain qu'on avait.
En effet.
Et puis, effectivement, c'est fait large. Le champ de vision est très, très large. Puis, ce qu'ils nous disent, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui circulent à une très, très grande vitesse. Les maisons qui sont sur la rue Champlain, mais qui donnent sur la partie boulevard Champlain, ben c'est leur cours. Puis, il y a beaucoup d'accidents, de sorties de route. Puis, les voitures atterrissent, là, vous irez voir là, dans les différents articles qui ont été générés par le point de presse qu'on a fait hier, là, les voitures atterrissent. Finissent leur course directement dans la cour des gens. Les gens ont peur pour leurs enfants, ça n'a pas de bon sens. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Ben, éventuellement, à long terme, il va falloir penser à refaire le boulevard, donc compléter ce qu'on a fait du côté de la promenade Samuel de Champlain qui a été améliorée. Mais là, on va faire ça quand les infrastructures souterraines seront à changer. On ne fait pas ça pour le plaisir. On fait ça quand il y a des travaux majeurs à faire de facto. Mais à court terme, ce qu'on peut faire, c'est un radar photo. Ça, ça a un impact.
Ah, c'est clair.
Là, sur Dufresne, Montmorency, à la sortie François de Laval, il y a la grande courbe dangereuse. Là. Il y avait eu des gens qui étaient décédés. Nous, on avait fait, moi et mon collègue, Michel Zanetti, on avait invité deux jeunes qui avaient été accidentés, emboutis parce qu'ils attendaient au feu rouge pour tourner à gauche sur François de Laval. Ils s'en étaient sortis, mais avec des séquelles physiques quand même importantes. Et ça avait donné l'installation d'un feu, pas d'un feu, mais d'un radar photo que ben maintenant la plupart des gens respectent. On lève le pied et on descend à 70 km/h, c'est moins dangereux.
Je passe là régulièrement pour vivre maintenant dans le secteur de Beauport et c'est fou comment le comportement a changé en raison du radar photo. Puis les radars photo, moi je le dis toujours, lorsqu'ils sont placés dans un coin, c'est vraiment, mais vraiment axé sur la sécurité. Exact. Ça ne devient pas des trappes à tickets. Non, ça change le comportement. Je le vis 3-4 fois par semaine avec François de Laval. Donc oui, un radar photo, c'est justement Marie-Ève qui nous écrivait, elle disait « Ouais, ça prendrait plus de policiers. Radar photo, ça serait parfait. Faut qu'on se calme en zone résidentielle. »
Les policiers ne peuvent pas toujours être là. T'sais, on ne peut pas leur demander d'être 24 heures sur 24 à cet endroit-là. Un radar, il va toujours rester nuit, jour, tempête, beau temps, mauvais temps. Il va toujours être là. Après ça, ultimement, ce qu'on veut, et c'est la même chose pour Dufresne-Montmorency, c'est une reconfiguration. Dans le cas de Dufresne-Montmorency, c'est une transformation en boulevard urbain pour toutes sortes de raisons, l'accès au fleuve notamment. Mais pour Champlain, c'est un peu la même chose. Ouais. Mais à court terme, on peut agir, on peut sauver des vies. Donc, agissons, tu sais. Là, actuellement, en 2024, j'avais réussi à convaincre la ministre des Transports de l'époque, Mme Guilbeault, d'adopter un nouveau projet de loi pour dépoussiérer le code de sécurité routière. Là, il y avait beaucoup de demandes pour la sécurité routière autour des écoles, rappelez-vous.
Oui.
Puis elle avait promis 250 nouveaux radars, alors qu'il y en a seulement 66 actuellement au Québec. Il y en a moins de 100, il y en a une cinquantaine au Québec. Donc, sur les 250, là, en mai dernier, le ministère des Transports a promis de déployer 66 nouveaux radars dans les deux prochaines années. Donc, on est loin des 250,
ouais.
Au moins c'est 66 de plus. Donc, il faut absolument qu'un de ces 66 radars-là atterrisse sur le boulevard Champlain parce qu'on en a une problématique de sécurité routière importante. Puis des gens qui ont peur. Fait que réglons ça au plus vite.
Une vraie de vraie dans la région de Québec. Je peux pas croire que l'autoroute Dufresne puis l'autoroute Laurentienne n'a pas été transformée encore en boulevard urbain.
On va travailler là-dessus.
Hey, c'est des projets qu'on parle depuis 20-25 ans. Ah, l'immobilisme de nos gouvernements. Je vais terminer la conversation avec vous, M. Grandmont, en parlant de Saint-Roch et d'itinérance. Encore des commerçants qui quittent le secteur de Saint-Roch. C'est quoi les trois actions prioritaires pour vous là, pour qu'on puisse revitaliser Saint-Roch? Parce que là, à l'heure actuelle, on va se le dire, on est dans une courbe très descendante.
Ben, d'abord, juste dire sur les commerces, oui, c'est dur de faire du commerce. Alors, des fois, il y en a certains qui vivent plus difficilement à la proximité avec les personnes qui sont en situation d'itinérante. Je peux le comprendre. C'est un peu, des fois, intimidant pour certaines personnes.
Bon, vraiment.
À comprendre un peu les raisons qui sont derrière, on comprend. Puis évidemment, je suis un homme, puis c'est pas la même réalité pour tout le monde non plus. Je suis grand, je fais 6 pieds. Bon, c'est pas la même réalité pour tout le monde, ça j'en suis très, très conscient. Mais il faut dire aussi qu'il y a des commerces qui quittent parce que Le commerce au détail, c'est quand même difficile. Beaucoup de gens qui achètent en ligne puis qui vont moins physiquement dans les commerces aussi. Là. Je pense que Amazon fait très mal au commerce aussi. Mais bon, cela étant dit, je suis bien conscient que c'est une réalité qui est un enjeu, en fait, là, dans Saint-Roch. Et il y a beaucoup d'organismes qui travaillent là-dessus. Alors, nous, ce qu'on propose chez Québec solidaire, on veut donner un vrai coup de barre. Parce que là, actuellement, l'itinérance qu'on a dans Saint-Roch, mais qu'on a aussi partout au Québec, là. Vous avez mis l'accent sur Saint-Roch, mais...
Ah, c'est une crise provinciale, là. Il y en a dans le nord de Montréal, il y en a dans les Laurentides, ah oui.
Il y en a dans le bas du fleuve, il y en a partout maintenant, là.
Oui.
Et d'ailleurs, je m'étonne de ne pas avoir vu le gouvernement de la CAQ, qui disait qu'il était un gouvernement des régions, s'investir plus sur la question de l'itinérance, de nommer une personne responsable clairement de ce dossier-là. Et c'est ce qu'on propose, nous. On propose de créer un super ministre de l'itinérance parce que nous avons une crise humanitaire devant nous autres. Et on doit avoir un répondant dont c'est la principale job. Il se lève le matin et il dit « qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le sort de ces milliers de personnes, de ces au moins 12 000 personnes qui dorment dans la rue, qui sont en situation d'itinérance. » Une personne qui aurait pour mandat de coordonner l'action interministérielle, qui aurait des vrais budgets pour le faire, à la fois pour aider les organismes communautaires, à la fois aussi pour lever du logement, pour être capable de les loger, c'est-à-dire du logement à loyer modique, mais aussi avec des ressources à l'intérieur de ces logements-là pour les accompagner à reprendre un peu de contrôle sur leur vie. Puis qu'il y aurait aussi pour mandat de gérer une enveloppe unique, un guichet unique vers lequel les organismes communautaires puis tous les acteurs qui sont impliqués sur l'enjeu d'itinérance pourraient se tourner pour faire des demandes. Parce qu'actuellement, là, les demandes de subventions liées à l'itinérance, c'est un paquet de ministères différents et ça ne fait pas de sens. Il n'y a pas de cohérence.
Puis là, j'imagine qu'on doit toujours, falloir réinventer un nouveau projet alors que le besoin est là, là.
Exact. Puis là, ça fait que les organismes, quand ils ont des enveloppes à des subventions à demander à un paquet de ministères, ben ils sont tout le temps pognés pour faire de la reddition de comptes puis des demandes de subventions pour plein d'organismes, pour plein de ministères différents. Fait qu'ils passent plus de temps à faire de l'administratif qu'à être sur le terrain.
Parlez-moi-en. J'ai été directeur du service financier du Patro Charlebourg durant 5 ans. C'est un poste que le Patro Charlebourg avait créé parce qu'il y avait trop de paperasse.
Exact.
Fait qu'imaginez, l'organisme
moi,
a été oublié.
L'organisme aussi, là. Puis,
ah, c'est ça.
Juste faire d'administratif, là, moi, c'est ça.
On est là pour prendre soin du monde sur le terrain, mais on est pogné dans les papiers. C'est comme pour les PME. Ouais. Monsieur Étienne Grandmont, candidat dans Tachereau, ce fut un plaisir. Je vous souhaite une excellente campagne électorale. Je sais que ça va être une campagne très serrée entre vous et le PQ à l'heure actuelle. Pour plaisir de se reparler durant cette campagne.
Merci, puis au plaisir. Salut.
Merci. Bonjour. Étienne Grandmont, candidat pour la circonscription de Tachereau pour Québec solidaire. Il a été député là durant 4 ans. C'est-tu quoi? On vient de parler avec quelqu'un de Québec solidaire, puis je pense que c'est la force de Boulevard, c'est d'être capable de s'entendre avec tout le monde. Puis maudit que j'ai trouvé qu'il y avait des belles solutions concrètes.
Ben, au moins des solutions.
Ben oui.
Déjà là, c'est pas pire.
Pont de Québec, on l'abaisse, on a un matériel qui permet justement que la structure, ben que l'abaissement soit pas trop lourd pour la structure actuelle. Puis on vient de faire un beau 3 en 1. Transport actif, transport automobile, transport en commun.
Mais tu te rends-tu compte à quel point on rit de nos gueules? Excuse-moi de dire comme ça.
Mais non, mais t'as raison.
Mais la première ministre fait des promesses, elle arrive au pouvoir, puis elle donne pas la consigne aux fonctionnaires du ministère de Transport à œuvrer pour que sa promesse soit mise en œuvre.
Avec le voyant donc, t'as parlé dans le vide.
Ben, c'est une promesse en l'air.
C'est ça. C'est une...
On n'avait jamais prévu
de réaliser. Puis après ça, on se demande pourquoi qu'on est cynique. Ouais. Après ça, boulevard Champlain, ben, radar photo en attendant qu'on fasse des travaux. Ça fonctionne à d'autres endroits où, justement, la sécurité est en péril. Son exemple de François de Laval est excellent. Je passe là 3-4 fois par semaine. Je trouve que c'est très concret aussi, le plan en itinérance. Donc, j'ai aimé parler avec M. Grandmont. C'était du concret.
Ben, Québec solidaire, c'est comme ça qu'ils doivent se démarquer en prenant des sujets qui touchent le monde pour de vrai, puis en les développant comme ça.
Ouais. Vois-tu le commentaire qui vient de rentrer par texto? Pour un gars de QS, il est vraiment bon. Non, mais c'est vrai, honnêtement, t'es, je dis souvent que moi, je vote pour un député, peu importe le parti. Puis sais-tu quoi? Étienne Grandmont va peut-être gagner dans Tachereau malgré que Québec solidaire va manger une volée. À l'exception de 2-3 comtés à Montréal, parce qu'il est bien implanté dans son milieu, puis parce que quand il parle comme ça, ben, il y a des solutions concrètes. Il vient vraiment de m'impressionner dans cette entrevue-là. Vous, comment vous avez trouvé Étienne Grandmont dans l'entrevue? 418-971-1021. Puis laisse-moi te dire que quand on parle du pont de Québec, des ponts à Québec, et que ça réagit par texto.
Ah, ça rentre toujours.
Ça rentre tout le temps. C'est un enjeu majeur, la mobilité dans la région de Québec. On fait une courte pause, puis Mathias, j'ai le goût qu'on finisse de façon un petit peu plus léger ou humoristique avec nos auditeurs. Puis là, je vais sûrement mal le dire, là, parce que j'ai toujours de la misère avec ce mot-là, mais le phénomène de la réduflation.
Oui. Ouais. Oui, tu as bien dit.
On l'a vu, c'est dans le journal, avec une barre Mars de 1991.
Hey, puis une barre Mars, ma foi, énorme.
C'est ça. Vous, là, c'est quoi, là, vous pouvez commencer à nous texter au 418-971-1021, là. C'est où, à l'épicerie, que vous dites « Tabarouette, la réduflation vient donc ben de me frapper dans la face. » Moi, j'ai un exemple concret à donner que un produit que je consomme à chaque jour, que je me rends compte à quel point il est vraiment victime de la réduflation.
Commence à diminuer.
Yes! On en parle après la pause à l'émission On en jase à Boulevard 102.1. Dès 14h, c'est Denis Gravel qui s'installe avec Véro et Audrey. 18h, Marceau le soir. Et Marceau qui reprend les rênes des ondes à 6h dans Marceau le matin. Bon, Mathias, on est au pic de l'éclipse, mais on le voit pas, hein?
Hey, c'est capoté ce qui se passe présentement à Jeff, là.
On ne voit qu'un coup... que des nuages, un couvert nuageux. Ça sera ça également pour demain, avec aussi 60 % de possibilité d'averse, plus en après-midi. Et par la suite, c'est le soleil qui revient vendredi et samedi avec des températures de 23 et 24 degrés. Des températures très agréables. Avant de parler de réduflation, donc là, je le dis bien, merci à Charles-Étienne qui nous a texté. Faut que je vous invite à la fête familiale maritime. C'est la grande fête du port de Québec. C'est samedi le 29 août prochain. C'est un événement présenté par Boulevard 102.1. À chaque année, on met à l'honneur le monde maritime et portuaire dans une ambiance familiale, festive et rassembleuse. C'est l'occasion de rencontrer plusieurs opérateurs maritimes passionnés qui seront sur place pour vous faire découvrir leur métier et vous partager leur quotidien. Il n'y a rien comme ça pour les petites familles. Les enfants vont être hyper impressionnés. Donc, des rencontres, des visites, des démonstrations, des activités, du plaisir pour toute la famille. Et c'est entièrement gratuit. On vous attend en grand nombre. C'est un rendez-vous le 29 août au quai Saint-André devant l'Oasis du port de Québec. Réduflation était à l'honneur dans le Journal de Québec aujourd'hui, Journal de Montréal. Hey, c'est une femme de ménage qui faisait le ménage pour dans une maison en Angleterre, pour une maison d'un collectionneur, et elle est tombée sur une vieille barre chocolatée datant de 1991 mars. Quand on regarde les images, Mathias, elle était tellement épaisse, la barre de chocolat, que j'ai l'impression que tu pouvais te disloquer la mâchoire en prenant une bouchée de Mars. Elle valait à l'époque entre 34 sous et 40 sous. Hey, c'était à belle époque, ça. T'achetais une palette de chocolat à 40 cents au dépanneur.
Puis t'en avais pour ton argent parce qu'elle était grosse en maudit, la barre
et là,
de chocolat.
Imagine-toi qu'en tenant compte de l'inflation, normalement, la barre Mars devrait être vendue 1$ aujourd'hui et ça tourne plus aux alentours d'1,62. On parle de dollars US ici, donc c'est pour ça que dans les dépanneurs,
ici, c'est un peu plus cher.
Vous retrouvez ça à 2$, ouais. 2$ et 25. Et là, on s'entend, il compare les deux sur sa vidéo et on voit très bien que non seulement la longueur de la Mars a diminué entre 91 et 2026, mais également l'épaisseur. C'est à peu près la moitié moins épaisse à l'heure actuelle, la barre Mars. Et tout ça pour un coût plus élevé. Et là, on vous avait demandé, avant la pause, puis textez-nous 418-971-1021. Il y en a-tu des produits comme ça que vous voyez, vous dites, eh, baba, la réduflation a frappé. Bon, Colosse, notre animateur de l'après-midi, a écrit, d'après-midi, de fin de semaine. OK, il anime le Boulevard du Rock le dimanche.
Oui.
Il anime les Colosses du Rock, une émission extraordinaire, edgy, la musique est dans le piton, les samedis, dimanches de 15h à 17h. Puis là, lui, il a dit les biscuits Lotler. Colosse! Si tu veux encore ta job, les biscuits Lotler sont parfaits. Il n'y a jamais eu de réduflation, OK? Message est passé à Colosse. Mais on parle des boîtes de biscuits en général. Puis c'est vrai, oui. J'ai remarqué ça. J'ai acheté des biscuits dernièrement à l'épicerie et les gens parlent qu'ils ont enlevé des rangées. C'est vrai, la boîte est plus longue. La boîte est encore gardée la même longueur, mais Il y a du vide à chaque extrémité.
Oui, puis l'espace de plastique entre les rangées de biscuits, on l'a comme agrandi un peu aussi.
Exactement. Fait que ce qui fait en sorte que quand tu achètes les biscuits, moi, dans mon cas, c'est les biscuits aux brisures de chocolat, je me suis écrit, mais il va en avoir plein. Mais finalement, oublie ça, là. Moi puis Gabo, on est des fans de biscuits aux brisures de chocolat. Elle n'a pas duré longtemps, la boîte, là. Il n'y en a presque plus dans la boîte.
Les sacs, moi, c'est beaucoup des sacs de chips, mais je vais cibler particulièrement les sacs de chips au Dollarama.
Oui!
À l'époque, un sac de chips au Dollarama, c'était vraiment pas cher. T'achetais ça à 2$. Puis là, c'était encore autour de 2-3$.
Ouais.
Mais c'est juste que c'est rendu un petit sac. Avant, c'était un gros sac comme à l'épicerie. T'avais le même sac qu'à l'épicerie. La vie était belle, toute. Maintenant, tu t'en vas au Dollarama, tu te dis ça va me coûter moins cher, mais finalement, le sac est tout petit.
Oui. On a plusieurs textos là-dessus. C'était le produit, moi, que je m'en étais rendu compte. C'est les bartans.
Aussi.
La grandeur a diminué, comme la Mars. L'épaisseur a diminué. Maintenant, dans les boîtes, souvent, il y en a 5 au lieu de 6.
Ah ouais, c'est rendu à 5?
Oui, pour certains produits. Je l'avais remarqué, ça. On nous dit par texto aussi, le jus d'orange qui avait été 2 litres est rendu 1,36 litres, mais qui est au même coût. Vois-tu, j'avais pas remarqué ça, puis je suis un buveur de jus d'orange. Je vais être très, très, très attentif. Bon, Colas se reprend en disant qu'il achète quand même les biscuits Lotlaire. OK, c'est parfait. c'est ça. Les sacs de chips reviennent beaucoup aussi. Donc, non, franchement, vous êtes victime. Le fromage en tranches, enveloppé, moins de tranches pour le même prix, c'est David qui nous écrit ça.
Dans les
c'est
paquets.
Ouais.
Mais c'est là qu'on se rend compte qu'au final, c'est tous les produits d'épicerie. Là. Tout
oui.
ce qui est emballé individuellement ou en paquet, tout, on réduit le nombre, on réduit la taille,
ouais.
puis on augmente le prix malgré ça.
C'est ça, puis c'est ce que j'allais dire en terminant. Qu'est-ce qui augmente le plus pour notre budget alors qu'on manque d'argent? L'épicerie. On entend toujours parler que les coûts d'épicerie, l'inflation est plus élevée. Souviens-toi, 7,2% dans la dernière année. Convaincu que vous allez en parler avec Denis Gravel, Véro et Audrey dans quelques instants. C'est le retour de Gravel qui s'installe. Dominique Gauthier va venir parler, entre autres, de cette équipe canadienne de flag football qui tente de se qualifier pour les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028. Mathias, on refait ça demain?
Yes, sir. Bonne journée, tout le monde.
Bonne journée.